Donc bah, ce soir, on parle de l'avalanche de Clamart et des avalanches en général dans l'Oisans.
Je n'ose pas parler d'avalanche parce que c'est tellement profond que on a parlé à l'époque de coulée de neige parce que l'objectif premier, c'était de reconstruire nos maisons. Et si on parlait d'avalanche, ça voulait dire que soit on faisait des protections, ce qui a été fait, pas dans le bon sens a priori, puisqu'ils ont refait cette année, soit on faisait une croix sur le village. Donc c'est pour ça qu'unanimement, on a parlé de coulée de neige, et ça paraissait moins dur pour les gens qui ont été sinistrés dont je faisais partie. Donc l'avalanche de Clavant, ou la coulée de neige de Clavant, s'est produite un mardi matin, à 10h du matin, le 20 janvier.
Le 20 janvier 81.
Voilà, donc on a été prévenu par, je ne sais plus qui à l'époque, par la mairie ou je ne sais pas. Donc on s'est tous un peu téléphoné, on s'est donné rendez-vous le lendemain matin à Bordoisan pour monter en convoi jusqu'à Misoing et ensuite on est parti à pied jusqu'à Clavant. Il faut savoir que l'avalanche elle faisait 4 km de largeur depuis le pont de Misoing jusqu'à la limite de Clavant-le-Haut. Et il y avait il y a eu 18 maisons de touchées par l'avalanche. Donc,
4 km, c'est la ligne de cassure.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, il était tombé beaucoup de neige. C'était un automne où il n'y avait pas eu de neige, elle est tombée en abondance. Donc la veille, il est tombé 80 cm de neige et il a fait beaucoup de vent. Ce qui a occasionné des plaques à vent et qui ont cassé pour des raisons qu'on ne sait pas trop, enfin, un phénomène quoi. Hein. Et donc, c'est ce qui explique la largeur aussi importante de l'avalanche. Donc, nous sommes partis de Bordoisan, arrivés à Misoing, on a laissé les voitures et puis on est parti à pied jusqu'à l'entrée du village. Ce matin-là, il y avait de la brume, c'était sinistre comme tout. Arrivé à l'entrée du village, eh bien, chacun est parti vers ses misères, parce qu'on peut parler de misère.
Pour arriver jusqu'au village, vous aviez une route dégagée ou
il y a Non, mais sur 4 km, c'était pas dégagé.
Sur 4 km, la route était complètement...
Oui. Ouais. Sur la
Alors, il y avait un hélicoptère qui tournait pour poser un transformateur pour pouvoir mettre de la lumière au village, parce que tout était coupé, hein, aussi bien l'électricité que l'eau, tout était ravagé, quoi. Donc, arrivé à l'entrée du village, et bien chacun s'est... Déjà, à l'entrée du village, et bien, il y avait la maison des Vibert, la maison des Ducer. Déjà, tout de suite à l'entrée du village, ça donnait déjà une idée de ce qui pouvait être. Et moi, je suis filé tout seul, parce que j'étais le dernier au bout du village, à filer vers le bout du village, et puis arrivé vers chez Xavier Gonnard, ben, il a fallu que je passe à quatre pattes en faisant mon chemin pour arriver dans la cour chez moi. Et arrivé chez moi, ben, j'ai vu que la grande maison était complètement décapitée, renversée dans la cour, la montée d'escalier, l'autre maison enlevée et tout le bazar. Alors là, j'aime autant vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour résister, enfin bon, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, ben, chacun s'est un peu retourné, voir comment on pouvait réagir, quoi. Et puis ben, le soir, on est reparti chacun de notre côté, et moi je suis descendu coucher chez mon père au Freinet, et le lendemain matin je suis remonté pour voir ce que je pouvais faire. Alors, il fallait commencer à regarder comment on pouvait faire, donc je ne savais pas si la dalle avait résisté de ma maison, c'était au bout de... D'une journée, le cafard m'a pris et je suis parti comme un automate parce que, en discutant à l'époque, les cataclysmes naturels n'étaient pas pris en charge par les assurances. Alors on se posait tous les questions, comment on va faire pour reconstruire la maison, comment ça va se passer avec les assurances, enfin, si bien que moi, plus personnellement, le bourdon m'a pris et je suis redescendu à la rampe des commerces, c'est plus moi qui conduisais, c'était complètement dans les vapes. Je suis arrivé à la Maïf. Alors mes filles, ils ont compris tout de suite quand ils m'ont vu arriver, ne vous faites pas de soucis, on prend en charge le sinistre. Alors là, je peux déjà vous dire que c'était un soulagement. Voilà, et puis alors après, bon donc, j'ai eu la chance que dans mon entreprise, on a été suffisamment souple pour me dire, bon ben écoute, tu prends le temps nécessaire pour faire ce que tu as à faire, quoi. Hein. Donc je suis remonté, et puis à ce moment-là, au niveau de la mairie, on a fait une réunion, c'était André Ribaud qui était maire, pour savoir comment on pouvait agir, quoi, hein, chacun de notre côté. Quoi. Et puis finalement, les militaires sont venus, Il y avait les chasseurs alpins et puis le génie. Alors ils se sont séparés en deux groupes, puisqu'ils ne s'entendaient pas trop entre eux.
Et ça, par rapport au jour de l'avalanche, c'était quoi? C'était un jour après, 2 jours après?
Oh, c'était 3 jours après.
3 jours après.
Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, une solidarité s'est mise en place. Et on se rejoignait tous chez Dédé Ruina, enfin chez le père Bussère à l'époque, et pour boire le café, pour essayer de se réchauffer un peu, quoi. Et puis chacun partait à ses occupations. Alors, eh bien, chacun pouvait s'arranger comme il voulait. Alors que les militaires sont arrivés, donc les chasseurs ont dégagé les maisons d'habitation du bas du village, et les génies sont venus chez moi. Ils sont restés exclusivement chez moi. Donc, eh bien, il fallait faire un accès pour arriver. En ce qui me concerne, la porte de la cave voûtée était, la porte avait sauté, la voûte avait éclaté de la cave, et il fallait faire une tranchée pour aller à la maison d'habitation, la petite maison d'habitation. Donc, il fallait faire un jeu de pelle déjà pour sortir toute la neige qui était dans la cave, et puis ensuite faire une petite tranchée de 40 cm pour pouvoir accéder. On tombait sur un meuble. Sur un truc qu'il fallait couper pour pouvoir accéder, quoi. Et pour arriver à la maison et puis essayer d'avoir un peu de lumière et se réchauffer, quoi. Alors les gars du génie, les militaires du génie venaient chez moi, ils prenaient le café, ils mangeaient chez moi, enfin, leur lieu de vie était chez moi, quoi. Et puis les chasseurs alpins, ben, c'était pareil, quoi. Ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient. Et puis alors après, donc, il a fallu faire une déclaration au niveau de la préfecture et tout le bazar. Donc, on avait affaire à un surfaçon de la protection civile qui était venu sur place et qui avait regardé, qui avait débloqué une aide de premier secours qui était à l'époque de 2 millions de centimes. Alors là, pareil, on a fait une réunion à la mairie et puis essayer de voir comment on pouvait faire pour les premiers secours, quoi.
La mairie n'avait pas été emportée par l'avalanche.
Non, la mairie est à Clamanlou. Donc là, on a fait une proposition de répartition sur laquelle au départ chacun semblait être d'accord sur cette répartition. Moi j'avais proposé de faire comme les gens qui n'avaient pas été sinistrés ou moins sinistrés avaient accueilli les personnes plus sinistrées. J'avais dit, bon, on est 18 sinistrés, on partage ces 2 millions de centimes, 2 millions en 18. En 18, et chacun retrouve un petit morceau de ce qu'il peut faire, quoi. Et puis, des gens n'ont pas été contents de cette proposition, ils ont porté le pet à la préfecture, à la protection civile. Si bien ce que je dois dire aussi, c'est qu'on a décidé très rapidement, pour pouvoir reconstruire une maison, de créer une association pour avoir plus de poids. Et nous sommes allés voir tout de suite les élus. Les conseillers généraux, leur permanence Baudoisan et le député Maisonnat, qui était le maire de Fontaine, député à l'époque de Lauzan, qui nous ont assuré de leur solidarité. Donc, convoqué chez M. Faustin, donc André Ribaud et puis moi, et M. Faustin a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord sur des propositions, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il faut trouver un peu de solidarité pour faire marcher, si vous voulez avoir des aides, quoi. Alors, la première décision qui a été prise, c'était de faire des devis pour reconstruire nos maisons. Il y avait 12 mètres de neige dans les rues. Alors, j'aime autant vous dire que faire des estimations, c'était pas évident. Et moi, en tant que secrétaire de l'association, je me suis débrouillé pour trouver des entrepreneurs. Mais on arrivait à des devis qui étaient astronomiques, plus chers que la région parisienne, quoi, hein. Et donc, quand on a fait passer ces devis aux assureurs, ils ont réagi de différentes manières. Et sur Clavant, on était 7 sinistrés assurés à la Maïf. Donc, on était quand même un noyau assez fort pour pouvoir faire des démarches, quoi. L'expert de la Maïf est venu sur place. On a fait une réunion à la mairie. Donc il nous a briefé tout de suite en disant, écoutez, moi voilà, je suis prêt à vous aider, mais il ne faudra pas essayer de me rouler dans la farine. Moi, je prendrai en charge qui est le dû de l'assurance, mais les fissures qui existaient avant, ne comptez pas sur moi pour les prendre. Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça calmait un peu les choses, quoi. Chacun s'est un peu débrouillé pour enlever sa neige et faire ses accès. Et moi, j'ai des gens de mon boulot qui étaient partis du club de montagne. Ils sont venus m'aider, ils sont restés 2 ou 3 jours, on a déblayé la neige, le génie m'avait dégagé la dalle de ma maison, donc on a vu que la dalle avait résisté. Et à l'époque, cette maison, cet appartement était loué, c'était les Pérez qui l'habitaient, et à l'époque, heureusement, ils n'étaient pas là quand ça s'est produit.
Oui, parce que de toute façon, avec le temps de neige,
ah oui, là, il n'y avait rien à faire.
Il faut dire que c'était une chance, entre guillemets, il y avait très peu de monde au village ce jour-là.
Parce qu'il faut savoir...
Parce que ça avait été le dimanche précédent, il y avait beaucoup de monde au village.
Qu'est-ce qui disait que justement, il n'y avait pas beaucoup de...
Parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui habitaient, qui étaient résidents permanents.
D'accord.
Et la plupart des gens travaillaient sur Grenoble. Donc le dimanche, ils étaient là, ici au village, et la semaine, ils partaient travailler à la ville. Et ce que je voulais dire aussi à propos de l'avalanche, quand on a su par les médias, en fait, la télé, la radio annonçait l'avalanche à Clamant, mais on n'avait aucun moyen de communication parce qu'on était tous inquiets de savoir s'il y avait des dégâts de personnes, en particulier, mais bon, savoir aussi si les maisons étaient détruites parce qu'ils parlaient de la destruction de la moitié du village, donc on était inquiets et puis on pouvait contacter personne parce qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de téléphone. Alors on a essayé de téléphoner aux deux Alpes, et aux deux Alpes ils nous disaient « Ben oui, d'ici on voit qu'il y a une grosse avalanche, mais on ne peut pas en dire plus. » Donc on était vraiment inquiets parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir de renseignements précis.
Il y a quand même des gens du pays, ils sont quand même remontés, quand même, qui travaillaient en bas, hein, ils sont remontés pour donner des coups de main. Hein. Ils ont quand même bien pelé partout. Hein.
Oui, les gens, même les environs. Je vais dire ce que je sais, ce que j'ai vécu. Hein. D'ailleurs, ce jour-là, il faut dire qu'il y avait deux personnes, des gens qui étaient en vacances à Clavarche, Marcel Aubert, et qui avaient eu la présence d'esprit la veille de mettre leur voiture dans mon garage. Je me suis retrouvé avec deux voitures dans le garage qui ont été sauvées, d'autres qui étaient à l'entrée du village, il y a encore des carcasses qui sont en dessous. Hein. Il y a deux personnes qui sont sorties et ils sont entrées à l'horizontale, les jambes en avant parce que le courant d'air, le déplacement d'air les a projetés dans la maison, ils ne sont pas sûrs comment ils sont rentrés. Et puis l'Émile Arnold qui s'est trouvé, était parti donner à manger à ses lapins qui étaient à l'entrée du village, il avait disparu de la circulation, il ne savait pas où le trouver, et puis heureusement son chien s'est retrouvé de venir le sentir à l'emplacement où il était, ils ont pu le dégager à temps. Voilà.
Oui, parce que personne ne savait réellement où il était au moment où...
Voilà. Donc en ce qui concerne l'aide, je dois dire que heureusement que l'armée est venue, parce que sans quoi nous on s'en serait pas sortis.
Mais on
pouvait
pas.
Hein. Nous on s'en serait pas sortis. Mais enfin, les élus ont joué leur rôle. Se poser la question si on faisait une déclaration de catastrophe naturelle ou si on laissait marcher les assurances et puis aider en fonction de leurs moyens. Et finalement, on n'a pas fait déclaration de catastrophe naturelle parce qu'il n'y avait pas de commerce à l'époque.
Mais,
le député nous a bien aidés et il a versé de l'argent. En deux fois. La première fois, ça nous a servi à faire un peu des travaux. Chacun, après, a pu faire reconstruire ses maisons avec les moyens qu'ils avaient. Il faut savoir aussi quand même qu'il y a deux assurances qui n'ont pas marché. La maison à René Roux, pour laquelle l'assurance n'a pas marché. C'est moi qui ai fait toutes les démarches et eu des réponses négatives. Et puis la maison du Père Albou, en dessous du village, sur lequel l'assurance n'a pas marché. Il faut savoir quand même que par notre démarche au niveau de l'association, on a fait une première parce que la DDE sont venus faire les permis de construire à la mairie de Clavant. Oui. Donc c'est Xavier Gonor qui a fait tous les plans parce que même pour les fissures, ils nous ont obligé un permis de construire. Donc Xavier Gonor s'est tapé tous les permis de construire et moi je me suis tapé toutes les démarches administratives. Et on avait pris une résolution tous les sinistrés en disant on ne partira pas de la mairie tant que l'ensemble des sinistrés n'auront pas le permis de construire, qui s'est révélé une fois de plus pas tout à fait exact, parce qu'aussitôt que les gars avaient leur permis de construire, ils partaient comme des volets de moineaux, et à la sortie, il est resté deux permis de construire qui ne sont pas passés. Voilà.
Et c'est deux personnes qui n'ont pas été indemnisées par leur assurance.
Voilà.
Il n'y a pas eu moyen de faire jouer et l'association et le maire ou le député pour que les assurances...
Non, parce que pour une bonne raison, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui étaient très mal assurés. C'est un village rural et les gens ne pensent pas utile de s'assurer en fonction des... lorsqu'il arrive un pépin comme ça, c'est là qu'on se rend compte de l'intérêt d'avoir une bonne assurance.
C'est-à-dire à l'époque, quand on était rural, c'est qu'il faut de l'argent pour payer voilà. D'un côté oui. Et payer de l'autre. Et
donc il y a des gens qui étaient très mal assurés, donc ils ont juste ceux qui n'ont pas été tellement aidés par l'assurance en fonction de leur assurance. Hein. Ils ont reconstruit par leurs propres moyens, puis un petit peu en cédant, quoi. Hein. Mais comme toutes les mutuelles, toutes les assurances, ils font les remboursements à valeur de reconstruction. C'est-à-dire qu'ils nous payaient l'existant. Mais comme des maisons qui ont deux siècles, plusieurs siècles, on ne peut pas reconstruire à l'identique. Hein. Moi, je suis clair, si j'ai pu... Pour pouvoir continuer à refaire ma maison, il a fallu que j'emprunte 15 millions à toute vitesse pour pouvoir construire ma maison. Autrement, je la laissais en ruine. Voilà. Et je me suis occupé en tant que membre de l'association, j'ai fait reconstruire 3 maisons. J'ai fait faire la mienne et j'ai fait faire celle de Sacoman et de Madame Barbet. Donc on avait pris encore une entreprise qui faisait tout le corps de métier pour pouvoir faire l'ensemble des travaux. Alors au départ, les entreprises nous ont pris pour vraiment courir y arriver et puis nous gruger comme ils voulaient. Manque de peau pour eux, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Moi, j'ai vu les fonctions des devis, j'avais quand même eu l'habitude parce que j'avais déjà fait mes maisons. J'ai bien vu que c'était que les devis étaient un peu élevés. Alors je suis allé voir l'expert de la Maïf avec les devis et je lui ai dit, écoutez, voilà, vous regardez par rapport à vos prix bordereaux et me donnez votre avis. Il a regardé, oui, effectivement, vous pouvez leur faire des faire diminuer de 15%. Alors, je les ai convoqués et je leur ai dit, voilà, il ne faut pas nous prendre pour des Américains. On est des sinistrés, on a besoin de construire nos maisons. Donc, par conséquent, si vous voulez faire nos maisons, vous enlevez 15% de plus-value, plus 15% de travaux groupés. Hein, comme vous avez fait 3 maisons d'un coup. Donc, ils ont accepté. Ils ont accepté. Donc on a pu reconstruire à peu près dans des conditions à peu près favorables. Voilà. Mais après avoir fait les constructions, il a fallu nettoyer les abords du village. C'était vraiment pas beau. Hein.
Et sur Clavon, le bas, l'avalanche, l'entrée était bien plus...
Il y a eu deux avalanches.
Ah, il y a eu deux
coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avalanche qui a fait autant de dégâts, c'est parce qu'il y avait beaucoup de vent. Alors il y a une avalanche qui est partie, l'avalanche habituelle de la Combe de la Drenne, qui est partie depuis Cassini, et qui est descendue et qui a été déviée par le vent, et qui s'est rabattue sur l'entrée du village, et qui a fait du dégât sur l'entrée du village. Et puis une autre avalanche qui est arrivée au-dessus du village, qui est partie du pied du couloir en haut, où ils ont refait le paravalanche. Et celle-ci, elle est passée au-dessus du village, quoi.
Le même jour,
à 10 minutes d'intervalle, quoi. Hein. Voilà. Alors, on s'est posé beaucoup de questions sur cette avalanche, parce que ce jour-là, il se trouve qu'il y avait quelque chose à l'Alpe d'Huez, et il y avait des rotations d'hélicoptères. Alors, on s'est demandé si c'était pas les vibrations qui avaient parti ces plaques avant. Mais on peut quand même dire que ce même jour. Et quasiment à la même heure, il y a eu à la Morte, la Salette.
Oui,
mais des avalanches qui ont vraiment marqué.
Oui.
Hein.
Donc il y a
quand même un phénomène qui s'est passé.
Ils avaient aussi fait pas mal de tirs d'avalanches aussi.
Oui. Donc, on est passé à deux doigts de ne pas reconstruire les maisons. Ce qui valait dire qu'il fallait évacuer le village et puis mettre une croix à l'entrée du village et c'était terminé. Donc c'est pour ça que les élus nous ont aussi aidés. Et c'est pour ça qu'on a pu reconstruire nos maisons dans des conditions à peu près
correctes. Clavon-le-Bas aurait disparu, ouais. Clavon-le-Haut serait resté.
Oui, parce que finalement, il y a eu une avalanche quand même qui était juste pas bien loin de l'entrée du village, hein, Clavon-le-Haut.
Ah,
c'était découlé, oui, mais c'était pas des grosses avalanches, mais ça avait coulé, hein. Pas bien loin. Hein. Et Clavon-le-Haut, non, il avait été épargné, ça avait...
Voilà, donc vous avez été isolé complètement, parce que personne ne pouvait aussi être...
C'est arrêté en cul de la route.
Alors après, on avait des comment ça s'appelle là, l'électricité, comment on appelle
les groupes
électrogènes. Alors il y en avait un Clavon-le-Bas, un Clavon-le-Haut, et au début, l'EDF, ils attendaient là pour nous mettre le courant le soir et puis on nous coupait le soir. On nous mettait à la tombée de la nuit puis on nous coupait le soir. Après, ils nous avaient fait confiance. Alors, on faisait marcher ça jusqu'à ce que... Parce que le soir, on soignait nos bêtes, on avait nos bêtes à soigner, on n'y voyait rien. Et ça, ça partait comme ça. La journée, on n'avait pas de courant. On n'avait que le soir.
Et la largeur de l'avalanche, elle était donc de Misoin jusqu'à...
Du pont de Misoin, quand on descend après Misoin. Vers le pont, vers le moulin Clavant. Vers le moulin Clavant. Donc, elle arrivait jusque là. Et elle est arrivée jusqu'à la limite de Clavant.
Et comment vous avez pu marcher? C'était...
Il fallait marcher sur la neige. Après, ils nous ont dégagés avec les gens.
Mais on est bien resté une semaine. Une semaine sans ensemble.
La route était toute recouverte de neige.
Il y en avait des montagnes.
Vous vous rendez compte? Il fallait voir le paysage après, quand la fonte des neiges, c'était une catastrophe. Tout était arraché, les murs et les maisons.
C'est pour ça que finalement, la dernière subvention, il fallait bien qu'elle soit à la commune. Comment veux-tu que la commune, elle a aussi du travail. Hein.
Mais c'est Jean-Paul Aubert là, que me disait, quand il était parti à pied du pont, de Misoin, et il disait que quand il était monté, il disait on marchait, on ne savait pas où on était. On était sur la route ou si on était dans les arbres, on a tracé comme on a pu, et quand il disait on est arrivé au village, en fait, on était au niveau des toits.
Oui, moi je vous dis, pour arriver chez moi vers Chégonor, la route à Chégonor, je suis passé, il a fallu que je fasse mon passage sous le toit pour pouvoir accéder chez moi.
Mais quand vous arrivez à la place de Clavant-Bas, il y avait cette maison là qui est juste sur la place, sur la gauche, en descendant. Sur la gauche, il y a Louis Vibert, là, et puis il y a une autre maison, une petite maison là, il y a le passage pour aller à l'auberge, et puis une autre maison. Mais là, il y en avait une montagne. Il n'y avait plus haut que les toits.
Moi, je me rappelle d'une anecdote. Mon oncle, qui avait aussi pelé la neige pour accéder chez lui, et puis naturellement, ça donne chaud, pelé la neige, alors il avait quitté son pull, il l'avait accroché sur le lampadaire. À l'époque, il y avait des petits abat-jours. Il avait rempli la pelé la neige, puis arrivé à un moment donné, il dit, il faut que j'aille chercher mon pull. Il ne trouvait plus son pull. Puis il se retourne, il lève la tête, il voit son pull là-haut, pour dire les raisons de neige qu'il a fallu dégager pour accéder à la maison.
Enfin, il a vraiment fallu se battre, et heureusement qu'on a eu la présence d'esprit de faire une association, et sur laquelle on a fait pas mal de manifestations, des repas et autres, qui nous a permis de pouvoir bien agrémenter nos besoins, quoi.
Moi, à un moment, on n'avait pas le moral, Clavant-le-Haut. On a dit, ça y est, Clavant-le-Bas, c'est foutu. On chialait. Mais c'est pas vrai, moi, ça m'avait... J'ai dit, ça, c'est fini, Clavant-le-Bas.
Tout de suite après l'avalanche, quand la langue de neige est arrivée, qu'elle a tout dévasté, les gens qui étaient sur Clavant-le-Bas ont tout de suite pensé qu'il y avait des gens qui étaient pris dans l'avalanche. C'est une première vague qui a été une vague de recherche de blessés éventuels, où les gens savaient exactement combien ils étaient, mis à part les deux qui étaient...
Non. Il y avait très peu de monde au village.
Il y avait très peu de monde.
Alors, chaque famille s'est recensée, quoi. Dans sa propre maison, on s'est recensé. Et par exemple, comme on voit sur la photo, là, la marraine Mélie, elle était prisonnière chez elle parce que la neige était rentrée dans sa maison. Et elle disait, son mari s'appelait Émile, elle disait, mon Mille, il est là-bas au venteau pour aller soigner les lapins, pour aller chercher. Et donc les gens ont commencé à se diriger vers le venteau, donc un autre quartier du village. Et en fait, il n'était pas du tout là-bas. Il était juste devant la maison. Et donc ce mauvais chien, là, comme il disait, il a quand même eu le réflexe de gratter, et donc ils ont dit, pourquoi ce chien gratte ici? Et en fait, le parrain Émile, il était pris juste devant sa maison. Donc chaque personne a fait le recensement chez lui, et
de sa personne.
Voilà, et comme il y avait très peu de monde, ça a été évité. Et par contre, il y avait ces touristes, on parlait Lucien tout à l'heure, qui ont perdu leur voiture, qui est encore là-bas dans le talus, là-bas dessous, mais eux, ils ont été soufflés par l'avalanche, quoi.
Dans la maison.
Oui, d'après ce que j'ai souvent entendu dire, donc ils s'apprêtaient à partir au ski aux Deux Alpes. Et ils ont entendu un grand bruit. Alors il y en a deux qui sont rentrés dans la grange, et il y en a un qui est sorti parce qu'il a cru que c'était la grange qui s'écroulait. Et donc celui qui est sorti, il a été pris sous la neige. Mais comme les deux copains étaient là, ils ont dit, ben, il est juste avant. Quoi. Donc ils l'ont trouvé très rapidement, ils l'ont évacué tout de suite. Et les jeunes, là, c'est des gens de Toulouse, chaque année ils viennent à Clermont.
Ah oui,
ils reviennent.
Ah oui, chaque année ils viennent à Clermont.
C'est un mauvais souvenir qui laisse des traces, parce que moi des traces je les aurai toutes le restant de ma vie. Mes maisons étaient pratiquement terminées et d'un seul coup tout à refaire. Après des années de travail, comme chacun sait comment ça se passe quand on refait une maison, tous mes outils étaient dans ma grange et ils sont tous retrouvés en bas dans la cour sous 12 mètres de neige. Tous les meubles que j'avais en haut, des trucs que j'avais mis de côté précieusement, j'avais un vent qui était sur le plancher tout au niveau du de sous le toit, ben il est je voulais pas le mettre dehors pour pas l'abîmer, puis il est descendu tout seul plus vite qu'il aurait voulu, et puis un petit morceau encore.
Ben moi je me souviens, tu sais, ça c'est aussi un truc. Il y avait l'avalanche à Clermont-en-Bas, puis mon beau-père, justement, on avait mon beau-père qui était, il était devenu complètement, je sais pas pourquoi, il était pourtant pas paumé avant, mais là il s'est levé la nuit, il est tout venu saccagé dans la maison.
Ah bon?
Ah ben oui.
Ça lui avait tourné la tête
suite à
l'avalanche.
Je sais pas, non, il savait pas, qu'on ne savait pas nous qu'il y avait l'avalanche, mais il nous avait tout saccagé. Hein. Et on avait fait venir le médecin était parti du barrage à pied, pas du barrage, mais une maison à pied, pour venir voir. Il avait complètement perdu la tête, et puis c'est depuis ce jour-là qu'il avait...
Mais, enfin, il faut aussi... Bien sûr, on comprend l'amertume de Lucien, quand il explique son cas, mais aussi, je pense qu'il faut positiver dans un certain sens, parce que moi, qui étais de parenté donc avec le parrain Émile et la marraine Mélie, moi, je les ai souvent entendu dire... parce qu'avant, il n'y avait aucun confort, c'était une ferme, ils allaient pisser au milieu de l'écurie, comme on faisait tous avant. Hein. Et la marraine Mélie, qui avait plus de 70 ans, bien sûr, elle disait, mais comment a-t-on fait pour vivre sans confort jusqu'à présent? Parce que quand leur maison a été refaite, ils ont eu soudainement le WC, la salle de bain. Donc, c'était un mal, mais en même temps, ils ont eu du bien par la suite.
Oui, c'était le côté positif.
Voilà, le côté positif. Puis je voulais dire aussi...
Mais à quel prix?
Oui, à quel prix? À même temps, on est d'accord, mais...
Si, je pense eux, ils ne devaient pas avoir une grosse assurance. Hein. Ah. Eux, ils n'avaient pas une grosse assurance.
Non. Ben non, tous ceux qui étaient agriculteurs, ils n'étaient pas bien assurés. Hein. Tous ceux qui étaient dans l'enseignement ou qui étaient assurés à la manif, ils ont été mieux remboursés que les gens qui avaient... Ah. Je voulais dire aussi, Laurent, il avait pu obtenir des subventions de Anguilly, la mairie où il était conseiller municipal, et puis il avait eu une grosse subvention aussi de Chamonix.
Laurent
Dussert, mon oncle.
Il n'était pas touché par l'avalanche, lui.
Non, mais il a fait intervenir ses relations, et la mairie de Anguilly, où il n'était pas adjoint, il était conseiller, avait donné une subvention importante, et Chamonix avait donné une grosse subvention, si je me souviens bien, je ne vais pas dire tout de suite, mais si je me souviens bien, Chamonix avait donné 10 millions de centimes.
Les stations ont réagi par rapport à l'avalanche? Il y a eu des ont été faites par les stations?
Non, il y a eu des aides individuelles. Hein. Moi, personnellement, j'ai eu des aides par des copains hein, qui sont venus, ma famille et puis des copains. Il y a des communes qui ont aidé. Hein.
Mais, les communes voisines.
Oui, communes voisines ont aidé quand même.
Et les stations n'ont rien fait?
Non.
Au niveau de l'organisation, ensuite, du déblaiement, des premières interventions humaines, ça s'est passé comment? C'est le maire qui a pris les choses en main? C'est quelqu'un qui s'est...
Non, c'est les particuliers. Hein.
C'est les particuliers. Ah, il n'y a pas eu d'organisation. Chacun s'occupait un petit peu de son point de terrain. Il n'y a pas eu une personne ou un chef qui est arrivé, qui a dit, bon, on va faire comme ça.
Non, dans l'immédiat, c'est les militaires qui ont déblayé les toits, parce que les toits étaient surchargés et autres.
Tout à l'heure que les militaires étaient arrivés 2 jours ou 3 jours après l'avalanche.
Une semaine, enfin 4-5 voilà. jours.
Mais oui. Juste après l'avalanche, il a bien fallu dire...
Bah, c'est un peu désorganisé, hein. C'est un peu...
Bah, juste chacun qui s'est...
Chacun s'est...
Ah ben, il y avait tellement de la neige, tu ne pouvais pas passer, de toute façon, il n'y avait pas d'accès possible. Jusqu'au moment où ils ont mis les moyens avec les engins pour passer, mais ils ont nettoyé les routes. Hein. Mm-hmm. Mais c'était tellement important qu'on ne pouvait rien faire. Quoi.
Puis il y a des entreprises qui sont arrivées de très loin, il y en a qui sont arrivées pour l'électricité et tout ça, et c'était tout cassé.
Il y avait 80 cm d'épaisseur de neige pour tirer les câbles des grilles.
Ben oui.
Et donc Tiquière, il n'est pas mort à ce moment-là?
Il est mort, oui.
Et ils l'ont mis à Grenoble, hein?
Il est resté à Grenoble,
oui. Il est resté à Grenoble, parce qu'ils n'ont pas pu l'enterrer, il y avait trop de neige sur le cimetière. Donc ils l'ont mis à la morgue à Grenoble.
Parce que sur le cimetière, toutes les stèles, elles sont toutes couchées.
Oui, parce que l'église a été touchée aussi.
Oui, une partie de la sacristie derrière, puis les vitraux. Puis
ça avait enfoncé les vitraux et la neige était arrivée dans l'église.
Alors par contre, il y a eu des aides pour refaire les vitraux, des particuliers, des associations qui ont financé pour refaire les vitraux. Le maire a pu avoir une subvention spéciale pour refaire l'église. Enfin, si, bon, on a été aidés, hein, heureusement, parce qu'on ne s'est pas sorti. Hein.
Mais bon, il faut savoir aussi que, c'était pas bien gentil de dire ça, mais les deux qui ont été le plus sinistrés, ils n'avaient pas de permis de construire non plus. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc,
Oui, mais enfin, ils ont bien construit. Il y a bien quelqu'un qui a autorisé, qui a laissé faire la construction.
Ah, ça, c'est ok.
Ouais.
Et il y avait déjà eu des coulées?
On a retrouvé des archives qui remontaient jusqu'à 1450. Elles étaient encore écrites en latin, sur lesquelles on n'a pas trouvé de traces d'avalanche. On avait des traces de coulées de boue qui avaient détruit une partie de l'église, mais on n'a jamais trouvé de traces d'avalanche. Donc c'est quand même bien un phénomène exceptionnel. Quoi.
Et là, maintenant, et après, ils ont fait les protections du
village. Ah ben là, oui, on a su quelques années après, pas très longtemps, par le RTM, qui avait à l'époque été maître d'œuvre pour faire les couloirs d'avalanche. Parce que ce qu'il faut savoir, pourquoi il y a eu autant de dégâts, c'est que tous les villages de montagne, ils ont tous une protection naturelle. Hein. Soit une protection par des rochers, par des cailloux, ils ont tous une protection naturelle. Et Clavant, bah, effectivement, il y avait normalement, où on a refait le couloir, le tracé de protection d'avalanche, il existait, mais avec les érosions dans le temps, bah, ces couloirs se sont comblés. Et c'est pour ça qu'on les a refaits. Mais paraît-il qu'ils n'étaient pas faits, le gros couloir qui était au-dessus de Clavant, n'était pas fait absolument dans les règles, et que finalement, il n'était plus aussi efficace, et c'est pour ça qu'ils l'ont refait l'année dernière. Ils ont fait le couloir d'avalanche qui envoie carrément la neige de l'autre côté, ils ont fait des merlons, ils ont fait des plateformes pour stocker la neige, pour vraiment, là, ils ont fait un travail sérieux, donc...
Voilà. On peut dire que maintenant, le village est protégé.
Il faut aussi que le village il est construit sous un gros rognon rouge.
Il y a un éperon quand même.
Qui s'appelle le rocher de Patourite.
Le
rocher de Patourite. Et ce rocher, il y a donc deux combes qui partent de chaque côté. Et le village, il est en poignée là-dessous ce rocher, on va dire. C'est une protection naturelle, comme disait Lucien. Donc, il y a l'avalanche quand elle part. Elle descend dans la combe de la Drenne où on voit maintenant où ils ont mis un feu, là. Donc elle est répertoriée depuis longtemps. Et puis de l'autre côté, ça partait à la sortie du village de Clavant-le-Haut. Et cette fois-là, comme il y avait énormément neigé, comme l'a dit Lucien, ça passait par-dessus le rocher.
Ah,
le rocher n'a pas fait sa fonction de protecteur.
C'est le vent qui a contrarié la poussée d'avalanche, quoi.
Il faut dire que c'est vrai ce que a dit Lucien tout à l'heure aussi. C'est une année où il n'avait pas neigé. Et donc, il a neigé d'un seul coup une grosse couche, et du coup, l'herbe s'est couchée, et la neige a glissé dessus. Ça a favorisé l'avalanche.
Il y avait toujours une avalanche aussi qui descendait en entrée de Clavant-le-Bas, qu'on appelle l'avalanche du Savelle. Elle a toujours existé, moi je l'ai toujours vue, cette avalanche.
La
combe
du Savelle, alors c'est plus à ras du village, la verbe bassin, pas l'entrée du village. Oui. Donc là, c'est plus arabe, mais elle est plus petite quand même, celle-ci. Mais elle descendait souvent. Elle
est victorieuse aussi, la combe de Savelle. Il y a des années, elle était importante.
Oui,
hein.
Mais elle n'a jamais quand même détruit la maison du Louis, quoi.
Enfin, ah non, elle passait des fois dans le cimetière. Elle avait passé dans le cimetière.
Ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas eu d'avalanche au niveau où il y a les feux, là.
96 ou 17 ou 18.
Il n'y a pas si longtemps.
Mais il y avait une... Il y a eu une sacrée...
Oui. Il y avait 7 mètres au milieu.
Oui. Ah oui, oui.
D'accord. Et moi, depuis que j'avais fait donc, le transport 2001...
Ah non, c'était
juste avant.
Je crois que c'est 98.
Je ne me rappelle pas de la date. Ah non, c'est avant.
Oui, j'ai des photos, c'est impressionnant.
A, sur le versant qui est au-dessus de Clavant, il n'y a pas de purge préventive par l'ICO, au Grenada, ou une chose comme ça.
Non.
Ils le font pas.
Non. Ils ont dit que c'était parce pas valable, ou c'était trop cher.
C'est, puis, c'est peut-être pas tout ça, c'est qu'ils savent pas où c'est que ça va ça les descendre après.
Si, on sait d'où elle va.
Maintenant, oui, mais tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on envoie des projectiles comme ça. Ça peut descendre où il ne faut pas.
Et c'est vrai que l'avalanche à l'entrée, là où il y a des feux, coupe la route de baisse aussi.
Oui.
Ah, elle descend.
Donc
elle,
quand elle descend, elle descend dans les deux routes. Elle descend dans le village.
Ah ben, il y avait, je me souviens, il y avait pas mal de soucis parce qu'ils avaient, comme ils ne voulaient pas que les gens passent, ils avaient fait un bourrelet de neige. Alors, du coup, les gens, ils passaient à pied par-dessus le bourrelet de neige, alors c'était plus dangereux encore que de passer en voiture.
Au niveau de l'architecture des maisons Clavant, qui est quand même assez particulière, quand ils ont fait reconstruire neuf.
Non, alors, l'explication pourquoi il y a eu autant de dégâts sur les maisons de Clavant, et moi en particulier, c'est que on a déjà parlé de la spécificité des constructions de Clavant avec les maisons avec un faux plat et puis les poutres prises dans les murs de derrière, ce qui faisait un système de balancier qui permettait de charger les pelles qu'on appelait. Hein. Alors ce phénomène-là, comme les poutres étaient prises dans les murs de l'arrière avec la poussée du vent et de la neige, ça a couché les maisons. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dégâts, voilà. Et quand on a voulu reconstruire, eh ben, on a essayé de reconstruire à l'identique. C'est pour ça qu'à Clavant, la reconstruction est assez agréable, parce qu'on a essayé de reconstruire dans le style. Mais comme je vous disais tout à l'heure, savoir que reconstruire dans le style, ça coûte beaucoup plus cher par rapport à ce qu'il y avait avant.
La grosse.
Mais enfin, on a quand même. Il faut reconnaître, c'est vrai ce que disait Brigitte tout à l'heure, on a retrouvé des maisons construites. Moi, j'ai reconstruit des maisons comme elles me plaisaient, avec un style de maintenant, et puis refaire tout le confort, quoi, hein, c'est vrai. Mais à quel prix, quoi? Le village est devenu beau, solide, construit avec les matières maintenant.
Et donc, oui, surtout nos constructions, c'était voilà. De la terre. Hein.
Les maisons étaient crépies, les murs étaient crépies en terre glaise. Hein. Donc, je ne peux pas demander à des
même
entrepreneurs.
Les buts étaient faits en terre
glaise. Donc, tu peux pas. Moi, quand j'ai voulu mettre l'eau chez mes tantes, le premier travail qu'il fait, j'ai mis des sanitaires et puis l'eau. Quand j'ai fait un trou dans le mur pour accéder, à un moment donné, quand j'ai passé la main, je sentais la terre qui descendait, j'ai dit, c'est la maison qui tombe. En fait, les maisons sont toutes pareilles. Il y a un pignon. Et puis une jambe de force à l'intérieur, et à l'intérieur de ces jambes de force, c'est rempli de terre glaise, de façon à faire l'étanchéité. Par contre, les murs au sommet, ben, ils faisaient 20 cm d'épaisseur. Et donc, avec ces poutres qui étaient prises, mais on n'a pas pu reconstruire à l'identique. Moi, on avait fait des plans, Xavier m'avait fait des plans pour refaire ce système de plans inclinés et tout. Le charpentier n'a jamais été fouché de le faire, quoi. Donc, il a fait quelque chose qui lui semblait correct, mais moi j'étais pas tranquille. Et j'ai fait à nouveau internir l'expert pour qui contrôle, voir si c'était acceptable, si c'était solide. Et le premier hiver à la suite, donc en 82, il se trouve qu'il avait neigé beaucoup. Eh bien, je suis monté sur le toit pour déneiger parce que j'avais peur que ça ne tienne pas le coup, quoi. Hein, donc.
Et 30 ans après l'avalanche, il y a encore des traces visible du passage de l'avalanche ou
non,
la carcasse de la voiture en bas.
La carcasse de la voiture.
Non. Sauf que les murs qui ont été démolis, et ils n'ont pas été refaits. Hein. Mm-hmm. Ça, déjà les murs, normalement ils tiennent les murs en pierre sèche, ils tiennent un certain nombre d'années, mais quand ils prennent une avalanche sur le nez, c'est sûr qu'il n'en reste pas grand chose. Hein. Et c'est pour ça que la dernière subvention était faite pour refaire les murs autour du village qui a été sinistré.
Comme je disais, là, dans la première maison à l'entrée du village là, qui a été entièrement détruite, la dame qui habitait dans cette maison, elle était hospitalisée à ce moment-là. Donc c'était une chance. Dans son malheur, c'était une chance là, parce qu'elle a été épargnée. Mais je pense quand même que ça l'a ébranlée fortement parce qu'elle est décédée au mois d'août suivant.
Sur le cimetière,
oui, j'étais.
Toute seule.
Elle
est allée dans le
cimetière. Oui, on était sur la place.
C'est sur le cimetière.
Je pense que le sinistre. vitre de sa maison entièrement. Mais alors vraiment, sa maison, elle, il restait absolument rien du tout.
Puis il devait pas.
Ça l'a ébranlé. Hein.
Il devait pas faire chaud en plus de ça.
Bah, c'est comment vous chauffiez?
Et ah ben ce jour-là, j'ai bien, c'était le jour de l'avalanche, c'était un sinistre. Enfin pas le jour, le lendemain. Le lendemain quand on est monté, mais c'était un sinistre. Il y avait de la brume, il y avait du vent. C'était... Oh là là, là là là.
Vous deviez avoir froid.
Après il a fait beau tout le temps. Mais jusqu'au printemps, on n'a pas eu un brin de neige.
Moi quand j'ai voulu au printemps allumer mon chauffage, j'habitais à la petite maison à l'époque. Quand j'ai allumé le poêle, la fumée sortait par le coffret électrique. Je ne sais pas si vous voyez, pour placer mon coffret électrique, j'avais fait un emplacement, un truc, qui était certainement pas très loin de conduit de fumée, et la fumée sortait par le coffret électrique. Mais chez moi, j'ai pas pu les refaire, dans la petite maison, tous les linteaux sont tous fissurés, le carrelage, le sol a bougé, toutes les cloisons éventrées, enfin bon... Et heureusement, la maison n'est pas partie, les escaliers sont partis, mais la maison, la porte a résisté, c'est une porte en frêne qui existe toujours, qui fait ça d'épaisseur, avec une vieille serrure. Elle a été forcée, mais la neige n'a pas pu rentrer. Si ça avait pu rentrer, la maison, elle partait, quoi. Mais par contre, la voûte de la cave, en bas, elle est exposée, quoi.
Et après, plus de chute de neige.
Non, beau temps, tout le temps.
Mais je pense que, moi j'en reviens à l'humain, je pense que cette avalanche a été triste, ça a été éprouvant pour beaucoup de personnes, mais en même temps ça a rassemblé les gens. Ça, bien qu'il y ait toujours des petites animosités, mais malgré tout, il y a eu un resserrement et grâce à l'association, oui. On a pu se retrouver, se trouver, se connaître et s'apprécier, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, parce qu'avant on vivait chacun de notre côté, ouais, on ne se tentait pas trop, et ben, c'est vrai, on n'allait pas les uns chez les autres.
C'est les chasseurs.